Et donc, ce qui semblait avoir été demandé, c'est qu'on puisse montrer sur quoi il pouvait y avoir relation entre didactique des mathématiques et didactique d'autres domaines. Ce que je veux dire, c'est que j'essaierai de faire comprendre un certain nombre d'éléments qui me sont propres, parce que s'il y a consonance d'un certain nombre de réactions entre, par exemple, Chevalard, qui est là aujourd'hui, et moi-même, je ne suis pas du tout de ceux qui tendent l'autre joue quand ils ont reçu une claque. Et ça, depuis le début, et j'ai reçu quelques claques. Moi, au début. Globalement, les rapports pour moi-même et pour le laboratoire dans lequel je suis, qui a pris des formes multiples au cours de l'histoire depuis 1972, puisque le groupe date de 1972, sont extrêmement épisodiques et dans une très large mesure univoques. Alors pour dire comment je circule, bon, j'ai été enseignant de physique et chimie, mais un temps très court, on m'avait envoyé en punition à Monsieur Saunier parce que j'avais refusé une prestigieuse classe préparatoire de l'année militaire de la Flèche. Sinon, tout de suite après, moi j'ai fait essentiellement toute ma vie de la préparation d'agrégation de physique et chimie. Et j'ai commencé par une thèse de recherche en physique dans un groupe expérimental intéressant qui travaillait dans l'ensemble des groupes pilotés à l'époque par Pierre-Gilles de Gênes. Ce qui veut dire que du point de vue scientifique, j'avais pas beaucoup d'inquiétude à avoir sur les possibilités de continuer, mais j'avoue que ça m'a pas. Autant j'étais passionné par l'idée de voir ce que c'était que de la recherche dans un institut qui marchait bien, qui vient de ressortir le dernier phénomène de physique, d'ailleurs, qui est un jeune collègue à l'époque. Autant j'avais pas du tout envie d'y passer ma vie, parce que ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est qu'au moins la moitié des chercheurs s'y emmerdaient consciencieusement tout en refusant de la voir. Alors, ce qui m'intéressait, c'était effectivement l'histoire des sciences à l'époque, des techniques aussi en partie, et puis les questions d'enseignement des sciences essentiellement, et en particulier des sciences physiques. Alors, c'est comme ça que je suis rentré dans un groupe qui était chargé, et c'était très nouveau en sciences physiques, ça suivait les commissions ministériales et les groupes qui étaient chargés de concevoir, j'insiste sur concevoir, d'essayer et expérimenter des projets d'enseignement, d'initiation technique à l'époque, puis ça a été complété par de concevoir un enseignement de sciences physiques là où il n'y en avait pas, c'est-à-dire les collèges à l'époque, et de les essayer, de les évaluer. Donc il y a un enracinement dans ce problème qui est de concevoir, essayer, évaluer. Même chose parce que j'établissais dès ce moment-là la liaison avec l'Institut national de recherche pédagogique où le même problème se posait pour l'école primaire. Les leçons de choses ayant quasiment disparu depuis la dernière guerre, il s'agissait après 68 d'inventer ce qui aurait pu devenir une nouvelle science des techniques de l'école primaire. Là, c'est aussi technologie, puisque c'est un peu de moi qui ai introduit cet aspect technologique. Alors, en même temps, le groupe est devenu progressivement un laboratoire de recherche, donc je ne peux pas commencer en disant j'étais chercheur dès le départ, non, j'étais d'abord concepteur de projets d'enseignement qui auraient pu devenir après...
Tu étais mandaté ministériel.
Ah oui, tout à fait. Oui.
Votre position de l'institution.
Le groupe s'est transformé progressivement en laboratoire. D'une part, je pense, par l'effet d'une volonté d'évaluation des essais. D'autre part, par la possibilité de pouvoir mettre en place un dispositif d'études approfondies, capacité après de produire un certain nombre de thèses et de faire reconnaître universitaires, les gens qui avaient lu ces thèses. Alors c'est en fait dès 74 que personnellement j'ai suivi les travaux de didactique des maths, essentiellement ceux de Guy Brousseau, ceux qui pour moi ne sont pas tout à fait de la didactique des maths, mais qui étaient un peu dans la mouvance de Gérard Vergniaud. Je dois dire cependant que du côté mathématique, j'avais largement autant d'interactions puisque j'étais rattaché à Orsay avec quelqu'un comme Jean-Pierre Cahan, ou à d'autres occasions diverses avec quelqu'un comme Prof. Leser qui n'avait pas du tout les mêmes préoccupations que celles qui ont été données par Olivier ce matin et Alain à l'instant. Voilà un peu l'enracinement qui a débouché en ce qui me concerne sur une thèse d'État en 82, contribution à la caractérisation des objectifs de l'initiation aux sciences et techniques, qui était la reprise un peu plus théorique avec des éléments d'évaluation empirique sur ces essais conçus de projets d'enseignement pour le primaire et le collège.
Ça a donné une publication.
Alors ça a donné lieu à publication en livre en 86. Hein, donc vous notez 4 ans, c'est les temps suisses de réaction, puisque le texte était prêt dès 82. Et puis ça avait été présenté en partie à la première école d'été internationale de didactique, alors de la physique seulement, en 1983. Il y a été un premier regroupement mondial de gens qui ne s'appelaient pas tous didacticiens, dont certains pouvaient être soit dans des institutions scientifiques, soit dans des institutions qui peuvent accepter d'éducation, selon ce qui se passe dans les différents pays. C'est à cette occasion d'ailleurs que j'avais... enfin en correspondance avec Yves pour avoir le cours qu'il venait de faire à la première école d'été de la didactique des maths et que j'ai donc eu l'occasion de présenter la théorie dans la forme de cette époque, théorie de la transposition didactique, et la comparer d'une certaine façon avec une des propositions que je faisais moi-même qui était la question de la référence. Penser essentiellement à une pratique de référence pour la conception de projets d'enseignement à grosse échelle, hein, lors du trimestre de l'année. Bon, moi j'ai continué à m'intéresser à certains aspects du travaux de recherche en didactique des maths. Il y a eu ultérieurement un groupe de recherche, groupement de recherche sur patronage CNRS didactique des maths et de la physique. Ça m'a permis d'intervenir une fois sur une école d'été didactique des maths. Mais globalement, je considère qu'il y a eu une tentative avortée de ma part d'essayer de présenter et faire discuter d'autres points de vue pouvant concerner d'autres disciplines ou d'autres matières d'enseignement comme celle, parce que sans sciences physiques, c'est pas du tout la même chose physique et chimie. Ça, c'est pas du tout les mêmes disciplines. Entre une discipline comme la chimie, dont les objets, c'est-à-dire les substances chimiques, même si on est passé à une chimie sans objet à partir de 1968, c'est quand même, ça se chiffre en dizaines de millions, comme se chiffre en dizaines de millions les animaux, les espèces botaniques, les micro-organismes ou d'ailleurs les solutions techniques. C'est-à-dire qu'on a tout un ensemble là de disciplines où la question de l'appréhension de la diversité et de la mise en ordre de la diversité est le problème tout à fait premier et fondamental qu'il y a à affronter dans toute éducation, alors que ça n'est pas du tout celui de la physique. Je répète souvent, mais si j'avais choisi personnellement la physique, c'est parce que, compris pour l'agrégation, toute la physique pouvait tenir sur deux fiches Bristol 150 d'équations. Je ne connaissais aucune autre discipline
aussi
universitaire aussi, oui, pouvant laisser autant de temps pour penser en dehors de ce qu'il fallait apprendre de manière pratique. Ça ne veut pas dire qu'on est compétent en physique avec les deux fiches. C'est vrai que les vrais savoirs sont ailleurs. C'est ceux qui permettent d'utiliser ce qui est cristallisé en un certain nombre d'équations et de concepts de ce type, mais en nombre extrêmement peu, extrêmement faible. Alors, comment dit, j'ai dit c'est des contacts épisodiques et univoques, c'est-à-dire que je n'ai pas réussi à avoir de réelles discussions sur le fond, sur les points de vue, sur les différences de points de vue, s'enracinant dans les disciplines d'enseignement secondaire ou dans les disciplines académiques, ou s'enracinant dans les matières éducatives. Par exemple, ce qui est devenu sciences et technologies à l'école primaire n'est pas vraiment une discipline. Je connais d'autant mieux, je l'ai suivi depuis sa remise en place. Et ça demande sans doute une autre manière de faire. Mais en particulier, ce qui est on peut appeler les contenus d'enseignement dans ces domaines-là sont relativement mobiles, changeants. Crise de l'énergie en 1974, démerdez-vous pour faire quelque chose. Alors, on avait étudié la possibilité et on avait essayé d'évaluer la possibilité de faire quelque chose sur les questions énergétiques, la prévention du point de vue énergétique, d'un certain nombre de phénomènes et de techniques, au niveau de la troisième, pour une autre raison qui est typiquement de recherche, c'est qu'on savait, comme physicien ou comme technologue, que le concept d'énergie devait jouer sans doute un jour ou l'autre un rôle important. Mais ce n'est pas venu parce que c'était le concept qui était important, c'est venu pour une raison tout à fait conjoncturelle, mais qui est restée, qui est qu'il fallait dire quelque chose sur l'énergie pour le primaire, comme d'ailleurs pour le collège. En fait, il y a beaucoup de variabilité dans les prescriptions. Il n'y a pas de la question de la légitimité, de la pertinence, de la structuration d'ensemble, sauf quand vous aboutissez à des structurations de type plus théorique comme au lycée, ne sont pas des caractéristiques très fortes. D'autre part, on ne peut pas dire que ce qui doit être appris est tout à fait essentiel. Il m'est arrivé, en travaillant pour le Conseil national des programmes, de réunir un groupe pour savoir quelles seraient les compétences, les skills, la meilleure non-traduction de l'affaire, à l'issue de l'école primaire sur l'ensemble sciences et technologies. Eh bien, les positions vont d'un extrême à l'autre. Il y en a qui disent, oui, en fait, il faudrait concevoir que tout le programme, tout le curriculum formel soit pensé et rédigé en termes de skills. Vous savez, ça va être un peu difficile parce que quand vous aurez à justifier vraiment l'importance pour tous les enfants, quelle que soit l'école où ils sont, bon, vous n'y arriverez pas. Ah ben si c'est ça, alors il n'y a plus besoin de rien, il n'y a pas besoin d'apprendre, il faut qu'ils fassent quelque chose. Ça, c'est un peu dangereux parce que si on se présente de cette façon-là, il n'y aura plus rien de fait. Mais c'est très difficile, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la situation celle des mathématiques jusqu'à présent, où on peut, la justification essentielle, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de compétences, de skills qui soient appris et disponibles. C'est plus une retombée nécessaire dans un cadre d'institution, là au sens qui a été développé ce matin par Yves et Alain, parce qu'autrement ça devient une instabilité totale, qu'une nécessité absolue. Il y a quelques aspects de nécessité absolue, mais ça va vous faire rire. Si vous n'apprenez pas à des élèves cours d'école primaire à faire des transvasements de liquide, ils n'apprendront jamais. À partir de 10 ans ou 11 ans, ils considéreront qu'on les insulte si on leur demande d'apprendre ce genre de technique, qui est une technique utile, y compris dans la vie domestique. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre de caractéristiques. Alors, dans ces conditions, je dirais que ma posture personnelle, et c'est celle que j'ai essayé tout au long de, des années jusqu'à maintenant à faire adopter par les membres du laboratoire, c'est un intérêt pour tous les renouvellements de questionnements et de points de vue que les didacticiens des mathématiques produisent dans les questions qu'ils étudient, c'est mais complété par une préoccupation, en tout cas la mienne, moins celle des autres membres du laboratoire, d'en élucider les présupposés. C'est-à-dire comprendre quelles sont les conceptions des mathématiques, les conceptions de la recherche en didactique des mathématiques qui peuvent rendre compte du fait d'un certain nombre de choix, parce qu'il y a de fortes chances que les présupposés qu'il peut y avoir en didactique, soit de la physique, soit de la chimie, soit des sciences de la vie, de la terre ou de la technologie ou ailleurs, risquent d'être différents par les véritables personnes qui feront la recherche ou qui feront la formation. Il y a aussi un certain nombre de présupposés d'origine sociale, mode de fonctionnement des communautés de didacticiens. Pour avoir, être à l'échelle du nombre des didacticiens de mathématiques, il faut regrouper l'ensemble sciences et techniques. C'est un ensemble totalement hétérogène, la plupart des gens s'ignorent cordialement. Ils vont plus lire à l'extérieur de cet ensemble que entre eux, dans cet ensemble. Donc il n'y a pas de fonctionnement là suffisamment cumulatif pour avoir des effets comme il y a eu dans la communauté de didacticiens des maths qu'elle s'est constituée en France.
Il aurait 7 minutes.
Voilà. Alors, d'un point de vue secondaire, ça n'empêche pas cela d'avoir des relations cordiales avec tous les didacticiens proches géographiquement sur la place de Paris, que cela soit de Régis Bordy, Michel Arthur, de son groupe, voire même, mais sans discussion très autre que superficielle avec quelqu'un comme Sylvain. Ceci dit, je ne suis pas sûr que ces relations ne soient pas largement fondées sur un contresens sur ma position propre. Et c'est un peu à essayer de dissiper s'il existe ce contresens que je vais utiliser des 6 minutes.
7 minutes, on est resté 4. Ah!
Le contresens, il vient du fait que la posture fondamentale et qui est constructrice du laboratoire qui est dirigé. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait d'autres types de recherches, et ceci dès le début. Mais les constructrices du laboratoire, c'est de se rendre en capacité de pouvoir justement concevoir, essayer, évaluer des projets d'enseignement, des productions d'outils, des nouveaux types de formation, des nouveaux contenus de formation d'enseignants, la capacité de pouvoir intervenir dans des commissions. Alors moi, je n'emploie pas du tout le mot noosphère parce que ben, je trouve que c'est un peu un voile qui cache des lieux où j'ai navigué et où je sais, au moins pour les domaines qui m'ont concerné, où sont les rochers, les endroits où il y a un bon fond suffisant pour passer, ce qu'il faut éviter, où sont les balises et les signaux. Donc je ne peux pas globaliser ça sous le nom noosphère. Et où, de toute façon, ce qu'il faut, c'est apprendre à jouer avec les acteurs là-dedans. La difficulté, comme toujours, n'étant pas de jouer avec des ennemis intelligents, c'est avec des amis idiots. Là, c'est tout à fait. Alors, c'est un peu ce que j'avais essayé de dire dans un texte qui avait paru dans l'itinéraire de recherche de Perspective documentaire en 1995, j'avais titré montrer la référence et l'obstacle. Je rappelais ces circonstances. On s'est occupé des projets d'enseignement. On s'est occupé de la production d'outils. Où il y a eu, c'est très, très instructif, je pense, de réfléchir au fait. Alors non, nous avons commencé dès le début, que ce soit d'ailleurs pour l'école primaire avec l'équipe INRP, ou que ce soit pour l'enseignement secondaire, à faire des études sur les représentations, ultérieurement sur les raisonnements, qui sont des études orientées élèves et pas orientées, moins orientées enseignants-élèves comme Mercier, mais qui sont des études pour savoir ce qui se passe, avoir un certain nombre de repères suffisamment objectifs dans des conditions relativement contrôlées, mais en réalité assez ouvertes. On les appelait recherches dérivées. C'était pour dire qu'elles n'avaient pour nous aucun caractère fondamental, c'était la production d'un certain nombre de repères qui nous semblaient nécessaires pour l'action des enseignants. Ou pour prendre des orientations, des décisions dans la conception et l'essai de projets d'enseignement. Alors, c'est dans ce cadre-là où, comme vous voyez, la posture scotélarienne, que ce soit comme chercheur de base, comme responsable de groupe de conception, ou après comme directeur de laboratoire, ça a été de dire, au fond, je me comporte comme un ingénieur de conception, enfin, avec quelques responsabilités quand même, l'ingénieur de conception, mais je n'ai pas envie de mourir idiot, c'est-à-dire il faut en même temps produire les concepts qui permettent de caractériser les grands choix qui sont faits. Pas tout ce qui se passe, parce que dans la conception, on ne change jamais tout. On change un certain nombre d'aspects de composants et après, il y a besoin d'une mise en cohérence appuyée sur des essais pour que ça ait quelques chances de pouvoir fonctionner. C'est dans ce cadre-là que, par exemple, une des idées sur lesquelles fonctionnait le renouvellement de l'enseignement de la physique après 68, ça avait commencé aux États-Unis pendant la décennie 60, consistait à dire « la science a avancé ». La physique qui s'enseigne n'a pas avancé, ce qui est quand même extraordinaire. On a donné à l'école normale de la rue d'Ulm pendant 50 ans aux élèves physiciens qui rentraient la collection des Bruyères, la première édition datait de 1922. On l'a donné encore en 70 quand moi je préparais l'agrégation. Enfin, je faisais la préparation de l'agrégation du contenu. Pour une discipline dont on disait qu'elle avançait et que c'était une discipline phare de l'époque, il y a quelque chose de bizarre. Oui, la physique, c'était ça. La chimie, elle, avait beaucoup évolué et continue à évoluer toujours. C'est les différences très importantes. Alors, c'est dans ce cadre-là que j'ai proposé des conceptualisations comme pratique de référence, parce que aussi bien pour la physique en tant que discipline expérimentale, et pas simplement construction conceptuelle et théorique, que pour toute formation technologique. Il y a besoin de penser, alors là il y a une option qui a été prise, non pas tant savoir situer, parce que ça c'était déjà présent dans l'anthropologie de l'époque, et je trouvais que c'était très insuffisant pour penser la chose. Il y avait besoin de penser des pratiques incluant des savoirs divers, et pas simplement de se satisfaire de l'idée que les savoirs ne pouvaient prendre leur pleine signification qu'en donnant tous les éléments du contexte dans lesquels ils fonctionnent et sur lesquels ils peuvent avoir un certain type de pertinence. C'est là aussi que j'avais proposé des questions sur la question des objectifs-obstacles. C'était l'époque de la pédagogie dite par objectif, qui, de mon point de vue, à part l'enseignement programmé, n'a jamais servi qu'à obtenir quelques positions universitaires pour quelques-uns qui avaient fait des thèses là-dessus, parce que ce ne sont pas des outils maniables, Alors, un bon outil, le problème n'est pas que ce soit fondé théoriquement, c'est que d'abord, il puisse être utilisé comme outil, sa première qualité. C'est aussi un peu à ce moment-là que j'avais commencé à travailler sur les questions d'un schéma où puisse apparaître un ensemble assez suffisamment nombreux et pertinent des questions concernant les disciplines de sciences d'observation, de sciences expérimentales ou de technologies matérielles, en matière de la formation du corps vivant, qui est un schéma dit, des schémas dits de modélisation, qui ont fait hurler quelques-uns des collègues travaillant dans la didactique des maths, mais qui m'ont laissé leur hurlement, m'ont laissé imperturbable, parce que j'aurais l'idée de départ, de toute façon, c'est, ça fait partie du non négociable. C'est l'existence même de ces domaines-là qui est en jeu, c'est pas votre avis théorique sur l'affaire. Alors, pour conclure, vous voyez, je voudrais insister sur cette affaire-là. Il y a le FONS, l'orientation, c'est des problématiques qui visent la capacité de conception. Conception en production manuelle, qui vide pour la formation des enseignants. Conception de formation et de contenu de formation d'enseignants, du primaire au secondaire, et des formateurs d'enseignants. Capacité de pouvoir intervenir en expertise, non pas parce qu'on aurait connu par la recherche les solutions, parce qu'il me semble, je suis longtemps à peut-être à formuler les idées là-dessus, que la véritable expertise consiste à pouvoir problématiser sur le terrain et avec des partenaires les problèmes tels qu'ils apparaissent pour ses partenaires. Autrement dit, c'est pas avoir un grand recueil de solutions qu'on puisse adapter, c'est problématiser. Or, il n'y a qu'un lieu où on apprend à problématiser sans recherche. Autrement dit, de ce point de vue-là, le chercheur peut être, je ne dis pas qu'il est, mais il peut être un professionnel de la problématisation. Il y a des recherches qui sont du travail technique, hein, où on reproduit. Rentrer dans un labo physique expérimental, vous avez votre place, voilà le matériel, vous avez peut-être une petite commande complémentaire, mais vous n'avez jamais problématisé. C'est après. Il n'empêche que c'est une question qui me semble décisive. Se rendre capable de problématiser dans les lieux, au moment, avec les partenaires, dans les conditions qui sont seules. Alors comment, de ce point de vue-là, la recherche, le pilotage de groupes de recherche peut rendre capable soit de reproblématiser des éléments qu'on connaît mais qui ont été travaillés dans des tout autres contextes et dans d'autres conditions comme ça a été fait par la merci. Ou comment, en quelque sorte, pré-problématiser ce qui peut advenir comme problème. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles je terminerai là-dessus, qu'il y a un certain nombre d'outils, enfin, pas des institutions, c'est des organisations dont je m'occupe et je me suis occupé pendant de très longues années. Le premier, c'est les journées de Chamonix, parce que c'est le seul lieu où peuvent se rencontrer des chercheurs, des formateurs, un certain nombre d'enseignants, des gens qui sont aussi sur la diffusion, au sens habituel de diffusion des sciences et des techniques, hors système scolaire ou universitaire. Plus récemment, je me suis occupé d'un centre à Orsay qui s'appelle le Centre d'Alembert. J'ai repris la direction. Parce que, autant en 1970, la manière de poser le problème des sciences et des techniques, c'était comment mettre à jour ou mettre en plat, mettre à jour ce qui se fait compte tenu des évolutions scientifiques et techniques, ou mettre en place quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'il y a actuellement. Je crois aujourd'hui que le problème est beaucoup plus grave. Il s'agit de vous, pour ces disciples, cet ensemble-là, de voir comment on peut mettre en correspondance ce qui s'enseigne en sciences et techniques de formation générale, comme ce qui s'enseigne en sciences et techniques, enfin d'éducation générale, de formation de spécialistes avec les véritables pratiques, le véritable mode de fonctionnement des institutions de la recherche, du développement, dans leur relation avec l'économie, la politique et la culture aujourd'hui. C'est une toute autre tâche. De ce point de vue-là, on n'a pas le temps d'attendre que les historiens des sciences et techniques contemporaines produisent leur œuvre. Il faut aller faire cracher bien avant ceux qui interviennent dans les tendances d'évolution des sciences et des techniques. C'est la fonction du Centre d'Alembert que je vais réorienter ces dernières années. Et puis enfin, parce que ça pose des problèmes extrêmement importants de conception de ce que j'appellerais les questions de curriculum, parce que vous avez vu que tout ce dont j'ai parlé, même s'il y a des travaux qui sont à l'échelle d'une didactique de l'apprentissage, que par exemple au laboratoire pendant très longtemps avec Veil-Barret a piloté, d'un point de vue essentiellement de psychologie cognitive développementale, le gros des questions n'est pas tout à fait à cette échelle-là, le gros des décisions n'est pas à cette échelle-là, et donc c'est sur ce gros ensemble, avec toutes les composantes de ce qui peut constituer un curriculum, tous les différents types de curriculum et en sciences et techniques, aussi bien sur les disciplines que sur les matières d'école primaire, ou que sur les éducations diverses A qui ont été évoquées ce matin, il y a besoin d'avoir une réflexion et une compréhension historique des évolutions des grandes doctrines pédagogiques pour pouvoir beaucoup augmenter la panoplie d'interrogations et de solutions possibles.